Bonjour à tous, chers auditeurs. Le DM Idéal est ravi de vous proposer son émission spéciale à l'occasion des Interdep. Nous allons parler de l'actualité de l'école de Lyon et nous allons avoir quelques chroniques écrites par nos sympathiques chroniqueurs. Ici, Léonard, Anna et moi-même. On va commencer par les chroniques. Moi, en particulier, je vais parler de mathématiques, et il se trouve que on dit souvent que beaucoup de gens n'aiment pas les mathématiques et ont horreur de ça, sans doute à cause de souvenirs d'école ou autre. Je vais vous parler d'un vidéaste dont ce n'est pas l'idée. Je parle de Michael Launay, qui fait son émission Micmat sur YouTube, et qui récemment a sorti un livre qui s'appelle « Le grand roman des maths ». Alors, lui, Michael Launay, son avis, c'est que personne ne déteste les maths, mais que, en réalité, le problème est surtout qu'il y a plein de façons différentes de faire des maths, et que on n'en donne qu'une à l'école, ce qui peut dégoûter certaines personnes des mathématiques. Je vous encourage à aller regarder sur sa chaîne pour voir s'il a raison ou pas, mais il fait des mathématiques de manière très différente de ce qu'on vous présente à l'école. À côté, son roman... C'est pas tout à fait un roman, c'est une histoire des mathématiques, mais écrite de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de comment cette histoire s'est écrite, c'est-à-dire des interrogations qui ont eu lieu durant toute l'histoire des mathématiques, et qui permettent de montrer que la plupart des questions que les gens se posent en étudiant les mathématiques, eh bien, des chercheurs, ou du moins des mathématiciens, se les sont posées auparavant. Et d'un autre côté, ça permet de voir un peu le côté ludique des mathématiques. Alors, donc, ce livre est paru aux éditions Flammarion au début novembre, et il part de cette histoire des mathématiques, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolé, mais je n'ai pas lu ce livre en entier, je n'ai lu que quelques extraits, mais j'ai néanmoins une anecdote à vous raconter. Une anecdote sur un nombre en particulier. Et ce nombre, c'est 103 049. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi 103 049. Eh bien, il se trouve que ce nombre a un rapport sympathique avec les mathématiques actuelles et avec l'histoire passée. Pourquoi ? Parce que ce nombre a été donné par Plutarque au 1er siècle après Jésus-Christ. Plutarque qui écrivait qu'un certain Hipparque aurait dit qu'il y aurait 103 049 façons d'écrire des propositions complexes affirmatives à l'aide de propositions simples. Alors, jusqu'à récemment, on n'a pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et puis, en 1994, un étudiant américain a fait le rapport entre cette affirmation et le nombre de parenthésages possibles pour 10 propositions de parenthésage correct. Alors, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que Hipparque nous parle de ce nombre 103 049 au 1er siècle après Jésus-Christ, mais que la démonstration du fait que ce nombre 103 049 soit le nombre de parenthésages possibles pour 10 propositions, actuellement, on ne sait la faire qu'avec des outils qui datent du 19e siècle. Ce qui pose la question de, au fond, comment est-ce que les anciens arrivaient à deviner de telles choses ? C'est quand même assez mystérieux. DM Ideologue. Maintenant, je propose qu'après avoir parlé des anciens, on enchaîne sur un sujet un peu plus littéraire, mais plutôt culturel. Donc on va demander à Anna de nous parler de la Révolution russe à l'occasion de son 100e anniversaire.
Oui, alors bonjour. Donc pour ceux qui étaient un peu perdus à cause des mathématiques, je reviens en force avec un sujet qu'on connaît tous, 1917, donc une année centrale dans l'histoire de l'humanité, que connaissent absolument tous les petits Français, les petits Américains et les petits Russes, et qui semble être un sujet plus facile à aborder au premier abord que le parenthésage que j'ai essayé de suivre, mais j'avais plus de mal. Donc bon, cliché sur les littéraires qui ne comprennent rien, mais bon, on fait des efforts quand même. Donc, il se trouve qu'il a fallu qu'on parle de l'actualité des langues. Le grand problème, c'est que il n'y a eu qu'un seul représentant des langues russes. Étant donné que c'est la langue la plus présente à l'ENS, je me sens vraiment honorée aujourd'hui de représenter cette classe sous-représentée dans l'établissement. Donc, on pourrait aborder plusieurs sujets concernant la Russie, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus une résurgence d'articles concernant 1917. On sait tous très bien qu'aujourd'hui, la situation en Russie est assez complexe et avec la montée de l'extrémisme partout dans le monde, que ce soit entre Trump et prochainement Marine Le Pen, la question se pose aussi de qu'est-ce qui se passe en Russie avec ce Poutine qui garde le pouvoir depuis des années et qui semble ne pas vouloir le lâcher. Donc tout de suite, on peut revenir à 1917, cette année qui a changé absolument toute l'histoire de la Russie et toute l'approche politique du pouvoir russe dans les années à venir. Donc en 1917, rien ne préparait à la révolution. La situation semblait plus ou moins normale et c'est une révolution se prépare par petits signes qui s'accumulent et qui finissent par justement provoquer ce raz-de-marée, mais rien ne pouvait laisser présager une telle révolution en ce moment-là. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, pareil, on a l'impression que la situation politique russe est entièrement figée et que rien ne peut se passer. Et c'est pour ça que chez une grande majorité de penseurs politiques en Russie se pose la question de est-ce que finalement on n'assisterait pas à un même phénomène qu'en 1917 ? Est-ce que finalement on ne verrait pas tous ces signaux qui finiraient par mener en fin de compte à une révolution telle qu'en 1917 ? Pourquoi ces pensées ? Parce que par une très grande majorité en Russie, aujourd'hui, il y a cette volonté, même cet espoir qu'un jour, peut-être, quelque chose pourra changer en Russie. Parce qu'on a l'impression qu'il s'agit aujourd'hui d'une situation où rien ne bouge, où rien ne pourra bouger. Aujourd'hui, la moindre personne de l'opposition, on leur laisse même plus le droit de parole. Les personnes n'osent même plus sortir dans la rue pour manifester. Il y a énormément d'enfermement de toute forme de liberté d'expression. Et l'espoir que les choses changent disparaît de plus en plus, parce qu'on a l'impression que plus rien ne changera. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers 1917 en essayant de trouver ce qui, dans 1917, pouvait mener à cette révolution et ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui en 2017. Et étrangement, le grand espoir revient vers la figure de Trump. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'actualité russe, où c'est fondé en fait cette sorte de théorie montée à la dernière minute, mais qui permet en fait de regarder le monde avec espoir alors que tout va mal, en se disant que d'un côté aux États-Unis on a ce Trump qui monopolise le pouvoir en mode le macho qui a envie d'imposer sa loi, et de l'autre côté juste en face on a Poutine qui réagit à peu près qui a à peu près le même comportement. Et du coup la grande question serait, est-ce que deux machos comme ça peuvent survivre à la tête de très grandes puissances dans le monde, et est-ce qu'ils pourraient ne pas finir par s'entretuer l'un et l'autre, et du coup est-ce que cela ne pourrait pas à terme finir par changer la situation politique en Russie? C'est pour ça qu'on trouve par exemple sur différents médias russes plutôt d'opposition comme Echo Moskvy ou alors Argument et Fait et dans Affiche, enfin la majorité de presse un peu qui se veut un peu moins mainstream que tout ce qu'on peut trouver dans la presse habituelle. Et du coup, la grande question se pose de est-ce que finalement aujourd'hui, non plus grâce à une situation interne à la Russie, mais juste grâce à la Russie telle qu'elle est vue dans le monde entier par rapport à Trump, par rapport à ce qui se passe en Syrie, par rapport à la montée des forces extrémistes dans le monde, est-ce que ce n'est pas ça maintenant qui pourra changer ce qui se passe en Russie et mener à une potentielle révolution en 2017 ?
C'est une analyse très intéressante, Anna, mais j'ai une question par rapport à donc justement cet affrontement façon western, en fait. Enfin, le monde est trop petit pour deux machos à la tête de superpuissance. Si Trump et Poutine finissent par s'entretuer,
après ça reste un espoir.
Oui, un espoir, mais au niveau de deux chefs d'État américains et russes, est-ce que justement, un affrontement entre ces deux-là ne serait pas comme Rocky III entre Rocky Balboa et Dolph Lundgren jouant son ennemi russe, mais plutôt en une troisième guerre mondiale qui serait réellement désastreuse, surtout avec autant de bombes nucléaires dans les deux camps.
Oui, tout peut arriver. Mais après, tout de suite parler de troisième guerre mondiale, enfin, c'est... On a tous cette peur tout le temps de cette troisième guerre mondiale qui pourrait arriver un jour. Moi, je proposais en fait une vision assez optimiste de la situation actuelle, en essayant de trouver quelques éléments qui pourraient peut-être croire à un changement dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais effectivement, cela peut aussi mener du côté d'une troisième guerre mondiale. Ça serait...
Ce serait intéressant.
Très intéressant, et voilà, là on pourrait peut-être revenir au parenthésage.
Oui, bien sûr. Alors, d'un autre côté, je me posais une question par rapport à cette possibilité de deuxième révolution après 1917 et 2017, pourquoi pas après tout. Qu'est-ce qui serait similaire par rapport à la situation de 1917 post-révolution. Je veux dire, par exemple, à cet affrontement entre le parti bolchévique d'un côté, les anarchistes un petit peu de l'autre, qui ont perdu assez vite, et surtout le fait que la révolution a été menée au départ par une classe bourgeoise qui a incité le peuple russe à se soulever. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de similaire ?
Mais justement, en fait, le grand problème est là. C'est pour ça que j'essayais de centrer les similitudes uniquement autour du fait qu'il n'y avait pas de facteur direct qui poussait à cette révolution. Parce que cette similitude-là, on ne la retrouve absolument pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'en soi, on peut tous être informaticiens et n'avoir absolument aucun espoir par rapport à tout changement politique en Russie aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne retrouve pas du tout la même situation qu'en 1917. Ça, je pense que c'est quand même assez intéressant. Et souvent, on ne s'en rend pas vraiment compte en France, mais quand on allume la télé russe, par exemple, l'équivalent du TF1 russe, c'est tellement de l'endoctrinement pro-poutinien que ça en devient juste risible. Déjà, ils vont à chaque fois, en fait, toutes les émissions, le JT de 20h se construit avec une première partie, on montre à quel point tout va mal en France et dans le monde. Par exemple, ils vont trouver une pauvre Française à Paris qui dit qu'elle n'arrive pas à payer ses impôts, et en mettant une musique de Narnia, je me demande pourquoi à chaque fois, mais juste parce que ça fait un peu musique épique, ils vont montrer à quel point sa vie, c'est horrible, en disant juste après, en Russie, aujourd'hui, Medvedev s'est rendu dans une usine pour parler aux travailleurs, c'était une très belle journée, et en même temps aussi pour l'anniversaire de Poutine, ils font 10 minutes de silence en montrant des photos de Poutine pour montrer à quel point c'était un grand homme, et ils sortent même un film qu'ils ont montré sur TF1 qui s'appelait Poutine, moi président, où il va parler pendant 2 heures de lui en disant à la caméra, oui mais ça ne filmez pas s'il vous plaît, je préfère, j'aime pas qu'on me jette des fleurs à la figure, je préfère rester humble, choses comme ça, c'est hallucinant. Et quand on est dans cet endoctrinement, quand on n'en sort pas, on a beaucoup de mal à en discuter, on a beaucoup de mal à réaliser ce qui se passe. Et souvent, on ne peut comprendre véritablement ce qui se passe en Russie, même par rapport à l'Ukraine et par rapport à tout, que quand on en sort. Et c'est ce qui est hallucinant, c'est même des membres de ma famille, quand ils restent trop longtemps en Russie, et quand après ils finissent par sortir en Europe, on bascule dans des débats à l'affaire Dreyfus, où il y a vraiment une incompréhension totale des deux parties et aucun moyen de trouver une entente à moins de montrer à les personnes en face ce qui se passe vraiment dans le monde d'aujourd'hui.
Mais alors donc dans ce cas j'ai une question, est-ce que en 1917, enfin avant 1917, il y avait un tel culte de la personnalité envers la personne du tsar avant de déclencher cette révolution? Est-ce que les journaux vantaient les mérites du tsar de la même façon que le JT russe vante les mérites de Poutine?
Non, parce que on arrivait à l'époque vraiment du déclin du pouvoir tsariste et où de moins en moins de personnes reconnaissaient une légitimité à cette forme de pouvoir. Alors qu'avec Poutine, on entre de plus en plus dans une forme au contraire de sacralisation de ce pouvoir. Et c'est vrai que ce que tu dis dans ce sens-là, c'est juste, Poutine s'érige de plus en plus comme un tsar et en plus, il s'érige tellement en tsar qu'il commence de plus en plus à appuyer son pouvoir par une force de pouvoir spirituel. En disant, en se revendiquant non plus seulement d'un pouvoir politique, mais en se revendiquant de la légitimité d'un pouvoir pratiquement tsariste au sens divin du terme. Et c'est hallucinant. Enfin, c'est du coup, en 1917, on était sur une phase de déclin et aujourd'hui, on est au contraire dans une phase d'essor de ce culte de personnalité qui est en train de prendre des ampleurs absolument monstrueuses.
Eh bien, je pense que nous avons parlé donc de la Russie, Poutine, cette histoire avec Trump qui pourrait paraître pour certains un espoir. Mais je pense que Poutine et Trump sont aussi une mine d'or pour les humoristes. Et justement, je pense que nous allons pouvoir passer à un peu d'humour. Léonard nous a préparé quelque chose, écoutons-le.
Merci Antonin. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Transistor. Et si des normaliens nous écoutent aussi, je les salue également. Je remercie Transistor de me laisser ce temps de parole. Donc d'ordinaire, je fais rire de manière non-verbale. Ceux qui ont assisté à ma performance lors des épreuves de rock et salsa aux inter-ENS sauront de quoi je parle. Du coup, pour changer, j'ai accepté la lourde tâche d'écrire une chronique humoristique. D'ailleurs, on me fait signe que ça a commencé depuis une trentaine de secondes. Et cependant, je n'avais pas la moindre idée de comment faire rire les gens sans employer d'accent belge. Du coup, j'ai fait ce que n'importe qui vivant dans le 21e siècle aurait fait, et j'ai cherché sur Internet. Et donc, demander à Google comment écrire un texte humoristique renvoie effectivement un bon paquet de résultats que je me suis empressé de lire afin de ne pas décevoir l'auditoire de Transistor. Après avoir lu quelques pages de WikiHow et autres sites internet me proposant en prime une méthode simple et efficace pour agrandir la taille de mon pénis, j'ai compris ce que je devais faire. Parce que la simple mise en abîme, je ferai une chronique sur comment écrire un texte drôle et vu et revu après tout. Il faut aller plus loin. C'est pour ça que je propose une mise en abîme, quitte à ce que cela abîme le sketch. Donc aujourd'hui, nous verrons comment écrire un texte décrivant comment écrire un texte humoristique. Parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, quand même. Tenez, voici un exemple. Ce sympathique tutoriel, vous apprenant à devenir le nouveau Coluche, explique que le secret de l'humour est de créer une situation, mais avec une chute que l'on n'attend pas. Pour reprendre l'expression de Caradoc, c'est pas faux. En revanche, quand on a l'audace de proposer un exemple, il vaut mieux que ça marche. Alors, je cite, et je n'ai pas du tout modifié ce texte. Donc, voici une blague. Une fois, j'ai lutté avec un ours. Cet ours pesait moins d'un kilogramme et était bourré de coton. Alors, bon, j'avoue, je m'attendais pas forcément à cette chute. Et bon, on s'attend pas à du pire des proches lorsqu'on lit WikiHow. Mais tout de même, l'article prend ensuite un paragraphe entier pour vanter la drôlitude de la vanne. À mon goût, c'est plutôt cet éloge qui rend le tout hilarant. Il rend de la Baltique. En réalité, selon moi, apprendre à faire rire devrait avant tout être une étude comparée. Il ne faut pas chercher à créer si le contexte s'y prête. Dans ce cas, paradoxalement, très mal. Un vieil adage dit que si l'on est bon dans un domaine, on le fait. Et si on n'est pas, on l'enseigne. Alors, je sais pas si je fais bien de prononcer cette phrase à la radio d'une école formant les professeurs et enseignants. D'ailleurs, pour discuter de l'humour et de... comment apprendre ? J'ai ici tout un panel de spécialistes présents pour en discuter. Alors, mon premier invité, Jean-Marie Le Tecouedec, merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'accueillir.
Mais de rien. Alors, selon vous, comment apprendre à...
Écoutez, il y a plein de façons de faire rire, et pourtant on rit moins. Alors évidemment, s'il y avait moins d'arabes en France...
Merci pour cette intervention, Jean-Marie. Passons maintenant à Jean-Baptiste Duval. Merci d'avoir fait le trajet depuis Montréal jusqu'à Lyon.
Ouais, franchement, je pense que je peux vous être d'une grande aide, mais au Québec, toutes les blagues commencent par « c'est l'histoire d'un caribou qui » et ensuite tu peux jaser sur tout un tas de bullshit.
En effet, Jean-Baptiste, je ne sais pas si ça aide. Merci quand même pour cette intervention. Donnons alors la parole à Charlotte Perrier, étudiante à l'ENS Ulm en M2 de lecture comparée en sciences psychocognitives drôlatiques. Bonjour Charlotte.
Bonjour Léonard. Afin de définir l'humour, il faut en premier lieu définir ce qu'il n'est pas.
Mm-hmm.
L'important est de cerner le sujet. Et par là, j'entends bien cerner le sujet.
Cerner le sujet, tout à fait.
Cerner le sujet. L'humour, ce n'est pas comme vous l'avez si compendieusement condensé le fait de sobrement tracer une histoire pour en fin de compte accourir à une chute. L'humour est le subtil dialecte par lequel on discute directement avec les zygomatiques de son auditoire. C'est peindre la réalité au travers du prisme de l'inattendu. C'est provoquer le sursaut chez la raison qui, ne sachant plus comment réagir, déclenche le phénomène complexe et fascinant qu'est le rire. Une fois ce concept en tête, il est possible de créer l'humour. C'est une fois achevé ce travail préliminaire d'analyse approfondie que l'on saisit pleinement l'impact de la fameuse histoire du PD juif togolais qui rentre dans un bar et...
Merci beaucoup Charlotte. Il est temps pour moi de conclure, j'espère que cela fut instructif pour vous qui nous écoutez. Je rends maintenant l'antenne à mon équipe et non pas au Cachané. Merci beaucoup.
C'était très instructif, merci Léonard. Adi, tu nous as laissé sur notre faim. C'est quoi cette histoire de PD togolais ?
Alors écoutez, je ne vais pas m'aventurer là-dessus sur ce genre d'humour. Si jamais c'est ce qui vous plaît, vous pouvez écouter du Franck Dubos, du Jean-Marie Bigard, voire même n'importe quel discours de Donald Trump. Justement, on en parlait, je suis sûr que lui connaît cette histoire.
Très bien. Mais Trump connaît beaucoup d'histoires.
Beaucoup d'histoires, effectivement, et il nous les raconte si bien. Bien, après avoir illuminer cette émission, Léonard, je pense que nous pouvons passer à un sujet en rapport, la fête des Lumières. Effectivement, à Lyon, vous le savez, ce week-end, ce sera la fête des Lumières. Durant cette fête, certains monuments de la ville sont éclairés et aux fenêtres, on peut voir des lumignons. De plus, de nombreux artistes fourniront des animations dans les rues de la ville et la nuit brillera de mille feux dans notre belle cité de Lyon. Cette tradition remonte en fait au XVIIe siècle, lorsque la ville de Lyon s'est mise sous la protection de la Vierge Marie pour essayer d'échapper à une épidémie de peste. Ça a fonctionné et depuis, la ville a fait des processions, du moins jusqu'en 1852, qui partaient donc de la cathédrale Saint-Jean pour aller jusqu'à Fourvières, pendant lesquelles il remerciait la Vierge Marie et priait en son nom. Et en 1850, il y a eu un concours de sculpteurs pour faire une sculpture de la Vierge Marie qui fut inaugurée en 1852. Et donc, c'est là qu'arrive le début de la fête des Lumières. Parce qu'auparavant, quand il y avait cette procession, c'était le jour de la Nativité, le 8 septembre. Malheureusement, cette statue de la Vierge devait être inaugurée le 8 septembre 1852, mais pour des raisons météorologiques, ce n'a pas été le cas, et donc l'inauguration a été reportée et est tombée le 8 décembre, la date que nous connaissons désormais. Alors, pourquoi le 8 décembre ? Parce que c'est le jour de l'Immaculée Conception. Il faut tout de même qu'il y ait un rapport avec la Vierge Marie, sinon ce serait dommage d'inaugurer une statue de cette dernière. Donc, ce jour-là, le 8 décembre 1852, il y a eu un violent orage. Du coup, ils se sont tout de même demandé s'ils n'allaient pas encore reporter la date de l'inauguration de la statue. Mais cet orage s'est arrêté en soirée. Et ils étaient fous de joie, ils sont sortis de leur maison, ils ont illuminé les façades, ils ont fait des lumignons, bref, ce qui fait la fête des Lumières aujourd'hui. Alors, vous n'êtes sans doute pas sans savoir, chers auditeurs, qu'en 2015, la fête a été annulée suite aux attentats du 13 novembre, remplacée par un hommage aux victimes. Mais, cette année, la fête revient. Et nous en sommes tous très heureux, enfin, j'espère. Il faut néanmoins préciser que le périmètre de la fête a été restreint. Donc, le périmètre sera à la Presqu'île, de la place Bellecour à la place Satonnet, et le quartier du Vieux-Lyon. Les transports en commun seront gratuits pendant ces 3 jours à partir de 16h, donc vous pourrez en profiter. Pas nécessairement pour aller à la fête des Lumières, vous pouvez faire autre chose si vous voulez
aussi. Vous pouvez fuir Lyon comme les vrais Lyonnais. Oui, non, tu vois.
Voilà, par exemple, cette gratuité des transports en commun à partir de 16h est une bonne occasion de le faire. Autre chose, ce n'est pas seulement la ville de Lyon, mais que ça a aussi un rapport avec notre ENS. Et oui, les membres de l'association En Scène vous ont sans doute déjà permis de vous délecter d'une telle ambiance festive grâce à sa propre fête des Lumières organisée récemment.
Le dimanche mais pour 3 cela, décembre.
Absolument. Mais pour cela, je vais laisser la parole à Anna pour vous en parler de cette fête des Lumières ainsi que d'En Scène, tout simplement.
Oui, alors effectivement, dimanche 4 décembre, merci, vous avez pu assister à cette extraordinaire fête des Lumières qui s'est tenue à l'ENS de Lyon, qu'on a organisée avec tout notre enthousiasme et toute notre énergie. Et donc, en fait, je voulais juste en profiter pour vous rappeler qu'En Scène vous réserve moult surprises pour l'année à venir. Alors, vous allez avoir droit à un programme de spectacle exceptionnel avec une petite touche russe parce que, bon, cette année, la Russie est omniprésente dans tout l'ENS avec tout un mois russe, avec une présentation de différentes pièces mises en scène d'après différentes conceptions de mise en scène russe, Meyerhold de Stanislavski. Vous allez pouvoir en apprendre vraiment beaucoup sur le théâtre russe. Vous allez à côté avoir aussi toute une pièce avec le théâtre indien au mois de juin. Vous allez avoir une pièce sur le lien entre le réseau informatique et l'influence des smartphones sur notre personnalité. Ça va être le musée du mois présenté au mois de février. Et en plus, En Scène vous réserve des milliers de surprises exceptionnelles telles que des concerts de jazz, des concerts de métal avec sûrement un groupe qui va venir jusqu'à la fin de l'année. Également des sessions qu'on va intitulé Goulag de musique électronique en festive qu'on va inaugurer cette année d'une manière exceptionnelle. Et vous allez en plus avoir d'autres surprises que je ne peux pas vous dévoiler maintenant, bien sûr, question de professionnalisme.
DMIDL.
Bien, maintenant, nous avons parlé de Russie, nous avons parlé de fêtes. Quel rapport entre les deux? Mais l'alcool, bien entendu. Nous allons donc parler de bière.
Alors, pas de vodka, donc ok.
Oui, mais disons que...
on ne peut servir que jusqu'à la licence 3 à l'ENS, et donc du coup, la vodka...
On s'adapte, oui, très bien.
Au gala, d'ailleurs, organisé par les sangs du club gala, vous aurez le droit également à certains alcools de licence 3. Je vous invite à venir au gala pour déguster des cocktails préparés par votre pôle boisson adoré.
Aucun placement de produit n'est revendiqué pendant cette émission.
Le DMIDL n'est pas du tout vendu, ne vous inquiétez pas.
Et la Russie, tout ça, la vente, corruption, on connaît.
Vieux alcooliques notoires, simples amateurs de bière ou passionnés de ce boisson, nous vous connaissons, enfants de l'ENS. Nous connaissons aussi votre ardeur à chanter la normalienne. Bien que votre passion discutable pour le cubi puisse aussi être sujette à de grands discours et quelques discussions, nous avons pensé que la bière était un sujet tout de même plus respectable que le mauvais vin. Et c'est pourquoi nous allons en discuter présentement, vous présenter ces bières que vous croyez connaître car vous les avez aperçues au foyer ou en cafette. Arrêtons-nous d'abord un instant sur la fabrication de cette boisson chère à nos cœurs, nos papilles et nos foies, bien entendu. Pour faire de la bière, il vous faut de l'eau, du malt, du houblon et des levures. Et éventuellement d'autres choses, mais ce sont pour des bières spécifiques, on vous en parlera peut-être plus tard. L'eau doit bien entendu être de très bonne qualité. Les houblons les plus réputés viennent de République tchèque, de Slovénie, parfois d'Allemagne, de Croatie ou même d'Alsace. Et oui, il y en a en France. Le malt est une céréale, généralement l'orge, mais parfois aussi le seigle ou le froment, qu'on fait d'abord tremper pendant une dizaine d'heures, puis germer pendant une cinquantaine d'heures. Ensuite, on le sèche à une température de 40 degrés pendant une trentaine d'heures. Durant ce temps, on effectue un coup de feu en élevant la température entre 85 et 105 degrés durant 1 à 4 heures. Selon l'intensité de ce coup de feu, la bière sera blonde, ambrée, brune ou noire. Une fois le malt obtenu, on le concasse pour en faire une farine et on le mélange à l'eau. Puis ce mélange sera chauffé pour transformer une partie des amidons du malt en sucre. Après un filtrage, on ajoute le houblon dans la bière. Le houblon ajouté et la quantité de houblon choisi a une grande influence sur le goût de la bière. C'est seulement après une autre étape de filtrage qu'on ajoute les levures et que les étapes de fermentation commencent. Une fois terminé, on filtre les levures et on obtient notre bière. Alors... avant de discuter plus avant des bières, on va peut-être commencer par faire un tour de la table, que chacun présente sa bière préférée disponible au foyer. Léonard, par exemple.
Donc, au foyer, il y a beaucoup de bières que j'apprécie, par exemple la Quack ou la Duvel, mais celle que je prends le plus régulièrement, c'est la Pilsner Urquell, qui vient de République Tchèque, je suis allé en République Tchèque cet été, j'ai fait une dégustation de bière, donc on m'a un petit peu expliqué et tout, et c'est une bière assez légère, donc qui se boit bien, parce que les Pragois, par exemple, ont l'habitude, après le travail, d'aller dans un bar pour déguster une bière, et donc avec une bière légère comme ça, en fait ça leur permet de se reprendre 3 à 4 pintes sans non plus rentrer chez eux en rampant.
Moi je suis plus martini personnellement, mais faut parler de bière... Il m'arrive de prendre essentiellement la Skahul, parce que c'est là où on sent le moins le goût de la bière, et qu'il y a un petit goût citronné très agréable. Mais bon, il y a du cidre aussi en cafette, c'est sympa, c'est local.
Oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous parler de la cafette. Désolé, ami KGB, si vous nous entendez, ce n'est absolument pas de la discrimination, mais avouons que jusqu'ici, le foyer... est tout de même plus grand et plus à même d'accueillir tous les alcooliques de l'école.
Après, parce que aussi la majorité des alcooliques se trouvent en scientifique et se concentrent justement dans leur petit campus mono, mais qu'on n'arrête pas de vous dire, venez découvrir la vie à Descartes avec ses beaux jardins et sa belle cafétéria.
Ah, les jardins sont beaux, la cafette est bien. La cafette est très sympathique, mais un peu petite, il faudra l'avouer, à un moment. Même les littéraires devront l'avouer.
Mais il y a un beau décor stalinien. Avec des beaux membres du KGB, pour revenir à ce cher sujet de toute la chronique.
Donc, personnellement, ma bière préférée dans celle que nous propose le foyer ou la cafette...
Merci.
Ce sera la Maritsu triple. Alors... bien.
Moi, je mens parce que je m'en pète la tête quand je la bois.
Non, mais...
Le titre à combien, Antonin?
La Maritsu triple, le titre à 10 degrés. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce qui dicte mon choix est tout de même en partie mes ascendances belges. Étant à moitié flamand, je ne peux choisir qu'une bière belge.
Je compatis.
Alors, merci, même si ce n'est pas ce que j'aurais eu envie d'entendre. Mais bon, on va dire que c'est l'intention qui compte. Donc, Namaretsu Triple, qu'est-ce que c'est ? C'est une bière d'abbaye belge, donc, comme on l'a dit, qui est assez forte, qui a un goût assez corsé, mais un peu épicé aussi. Le truc qu'on peut lui reprocher, c'est que certaines bières ont un goût un peu de caramel, elle, clairement pas. Pour ceux qui aiment l'amertume, c'est super parce qu'elle a une amertume moyenne, mais surtout, elle laisse un arrière-goût assez amer que je trouve très sympathique. Alors, je pense que on peut encore parler de bière. Par exemple, Léonard, qu'est-ce que tu conseillerais comme bière à nos auditeurs ou normaliens, qui ne sont pas spécialistes de la bière.
Tu veux parler de bière que l'on peut trouver au foyer ou en général ?
À la cafette.
Alors,
oui, en foyer, cafette.
Commençons par foyer, cafette, et éventuellement, ensuite, tu peux élargir un peu.
Foyer, cafette, donc, on propose plein de bières, d'ailleurs, là, je crois qu'on a reçu un nouvel arrivage de bières un peu exotiques, que l'on servira, Sinon, comme je le dis, je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien la bière, la Pilsner Urquell n'est pas très amère, n'a pas énormément de goût en fait, et n'a pas beaucoup d'alcool. Donc finalement, pour quelqu'un qui ne connaît pas la bière et qui voudrait découvrir, je pense que c'est un bon début parce que ça ne risque pas de rebuter. Enfin, si jamais on veut conseiller à quelqu'un d'écouter du rock'n'roll, on va commencer par les Rolling Stones et peut-être pas par Black Sabbath. Même si les deux groupes sont très bien. Comme autre bière, moi, comme type de bière, ce que j'aime beaucoup, c'est la bière de type IPA, donc India Pale Ale. C'est de la bière très houblonnée, où on rajoute du houblon après la fermentation, qui donne un goût très amer, en fait, à la bière. Donc, pour les fans d'amertume, c'est bien. Et donc, il y en a de toutes sortes. Il y en a même faite en France. Alors, en région parisienne, il y a la Bap qui propose une IPA, par exemple, que je conseille très bien.
D'accord. Sur les bières, je pense que on en a pas mal parlé. Et j'encourage nos auditeurs à tester les bières du foyer, tester les bières de la cafette. Nous avons un choix assez large, ce serait bête de s'en priver.